Bonjour à tous, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France Culture s'interroge aujourd'hui sur l'égalité entre les genres. Il a souhaité ouvrir la réflexion à partir de son expérience personnelle dans Descente au cœur du mal, au lien qui libère. Le philosophe Raphaël Liogier interroge la virilité à l'heure de la modernité. Il sera notre invité après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, elle est l'un des visages derrière le hashtag « Maintenant on agit », un appel à soutenir les associations d'aide aux victimes de violences sexuelles. Comédienne, réalisatrice, elle publie aujourd'hui « S'aimer quand même » chez Grasset, une succession de moments de vie, une réflexion intime et personnelle. Isilde Lebesco est notre première invitée à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Ah, la belle occasion pour lui voler le titre de l'un de ses films, Isilde Lebesco, actrice, puis réalisatrice et maintenant écrivaine, quoique tout cela est sûrement réuni en une. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous venez donc de signer ce livre, S'aimer quand même, très belle présentation, très belle mise en page, il faut peut-être le préciser tout de suite, chez Grasset. Vous êtes la voix de ce livre que vous ne qualifiez pas de roman, qui résonne comme un dialogue intérieur, une succession de fragments, de moments de vie. Vous êtes une femme d'image, comédienne, réalisatrice. Sur quoi avez-vous voulu mettre cette fois des mots ?
Alors, d'abord, je dois dire qu'en fait, quand j'écris, c'est jamais intentionnel. Je ne sais pas, moi, ce que je vais écrire. Je découvre toujours en même temps que, comme lectrice, en fait. Au fur et à mesure, je ne sais pas ce que j'écris.
Mais vous l'écrivez.
Oui, voilà, je l'écris.
Et le fait de mettre tout cela en mots, toute cette matière de vie en mots, c'est une autre manière de formaliser des émotions.
En fait, c'est comme si on a en nous, comme si en fait, tout d'un coup, mon inconscient s'empare de moi et écrit, et moi je suis le scribe de la personne un peu, de notre moi profond. Et donc, à chaque fois que j'écris, j'essaye de trouver en fait cet état de offert totalement à ce qui va me traverser.
Vous êtes reparti d'une matière déjà existante, votre journal intime d'abord, comme point de départ, que vous avez rédigé sur le vif. Dans quelles années à peu près de votre vie ?
Tout ça, c'est des textes de ces 5 dernières années.
Donc le journal, il n'y a pas eu avant de journal intime, entre 10 et 20 ans, que vous aviez écrit comme une préadolescente ou une adolescente où déjà vous jetiez vos premières émotions. Il y a cette part d'intime dans ce journal, mais il y a aussi des notes prises au cours de vos voyages, par exemple. En prenant du recul sur tous ces textes que vous avez relus et assemblés ensemble, en tentant d'aller au-delà de vous-même, comme vous l'écrivez, de partager ces émotions, qu'est-ce que vous avez surtout trouvé ?
Une sorte de paix. C'est-à-dire d'accepter en fait tout ce que j'ai pu découvrir de moi et de l'accepter dans sa violence, dans sa simplicité, dans sa volonté de s'accepter, de passer outre des choses difficiles. C'est comme du soin, enfin, quelque part, d'écrire, de s'exprimer, d'accepter en fait toutes ces émotions qu'on a pu rentrer.
Et à vous relire, à relire ces extraits, ces bribes, ces fragments, est-ce que ça a été difficile aussi ?
Disons que ceux-là, je les ai tellement, tellement relus qu'au bout d'un moment, c'est... Non, ça n'a pas... J'ai l'impression de voir un peu celle que j'étais, de relire celle que j'étais, mais je suis différente aujourd'hui, donc... Ça m'a pas... Voilà.
C'est une mise à distance, en fait, vraiment, aussi, ce livre et ces textes. C'est un exercice de dévoilement, mais qui reste jusqu'au bout très pudique, à la fois par la forme choisie, c'est un mélange de correspondance, de poésie, de croquis, de notes, on l'évoquait, où vous mêlez le rêve à la réalité, le vécu à l'imaginaire. C'est pas une longue plainte, c'est pas non plus un témoignage à charge, et pourtant vous révélez des choses assez dures de vous-même ou de votre passé, de votre vécu. C'est un exercice de dévoilement, mais vous utilisez encore pas mal de filtres, et notamment l'anglais. Est-ce que vous le percevez comme ça? Vous écrivez par exemple « Today, I try to give the others what I did not receive, safety and love », ou encore ailleurs « I wonder what I mean to really feel at home. Isn't home a place that we need to build in ourselves only ?» Quand est-ce que vous faites le choix de l'anglais ou du français? Est-ce que l'anglais vous protège aussi d'une certaine manière?
Alors, j'écrivais en anglais quand c'était justement moi qui parlais, vraiment directement. Mais c'était pas des décisions, en fait. Hein. Vraiment, c'est comme ça, tout naturellement, aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est voilà, comme des voix. Et alors, pour vous dire un peu par rapport à se dévoiler, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas vraiment le sentiment de me dévoiler, bien que je me dévoile totalement, mais à partir du moment où les choses, elles sont exprimées, écrites, en fait, elles m'appartiennent plus. Et ce n'est déjà plus moi. Parce que ça permet de bouger, d'exprimer, surtout d'accepter en fait ce qu'on a vécu, permet de devenir autre. Donc ce qui est décrit, les traumatismes qui sont décrits, j'ai l'impression que c'est déjà une autre personne. Parce que justement, je les ai formulés, acceptés, et j'ai décidé que ça me rendrait plus forte encore en sensibilité, en compréhension, en empathie pour les autres. Donc, je suis déjà transformée, ce n'est déjà plus moi.
Et c'est une chose d'écrire et c'est une autre de publier. C'est une chose de parler de soi et c'est peut-être une autre chose à partir du moment où vous choisissez de publier tout cela, d'en faire un texte, un propos universel ou en tout cas collectif que chacun peut se réapproprier.
Oui, en fait, quand on rêve, je trouve qu'on attire en fait le rêve. Et ce livre, moi, l'écriture a toujours été une chose très importante pour moi. Après, bon, j'avais beaucoup de difficultés scolaires, donc je ne pouvais même pas me projeter comme écrivaine. Pourtant, c'était quelque chose comme un rêve, en fait. Et voilà, je pense, la vie a fait qu'on est venu me demander un livre et ça m'a obligée à formuler tout ça. Et ça a construit, en fait, ce que j'ai la chance de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire un livre publié.
On va revenir sur quelques-uns des ingrédients de ce livre. Vous y racontez notamment ce que c'est que de grandir dans une famille déchirée, dans un climat incestueux, écrivez-vous, entre des parents qui ne partagent pas les mêmes valeurs, la même vision de la vie. On va résumer un peu en disant l'apparence pour l'une, l'exigence ou la surexigence intellectuelle pour l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir grandi dans un conflit de loyauté permanent?
Oui, totalement. On est pris, en fait, de toute façon, quand il n'y a pas d'harmonie entre chaque personne, il y a toujours du conflit, c'est-à-dire, peu importe les objets, j'irais même jusqu'à dire qu'ils auraient pu être d'accord sur le fond des choses, mais il y avait tellement d'altérité que de toute façon, on est pris en conflit, en fait. On peut être même avec qu'un seul parent dans cette adversité si ce parent-là n'a pas cette harmonie en lui-même. Les gens qui sont toujours en conflit, c'est des gens qui sont en conflit vraiment avec eux-mêmes. Donc, ils peuvent être qu'un, c'est quand même déjà du conflit, quoi.
Et le sentiment, du coup, pour vous, de ne jamais être à la hauteur, ni dans le regard de l'un, ni dans le regard de l'autre. Et peut-être, ce que vous racontez bien, c'est qu'on peut être aimé par ses parents, mais on peut aussi être mal aimé. Quel sentiment dominant en gardez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est de cette période, surtout celui de la culpabilité qu'un enfant peut éprouver de grandir dans une famille déchirée comme celle-ci?
C'est sûr que je pense qu'on pourrait apprendre à aimer autrement avec qui on est, mais c'est-à-dire apprendre à aimer les gens comme ils sont et ses enfants surtout comme ils sont. Parce qu'en fait, on parle de la parenté, mais c'est pareil pour les hommes et les femmes. C'est assez inouï en fait de dire à un enfant des phrases comme « Ah non, mais si tu fais ça, moi, je t'aime pas. » C'est quand même assez sidérant aujourd'hui de qu'on puisse encore entendre des phrases comme ça, alors qu'en fait, on sait que c'est justement en se sentant aimé pour qui nous sommes qu'on peut grandir. Donc, on n'a pas à exiger, et puis c'est toujours une projection, en fait, qui on est pour exiger de ses parents, de ses enfants, excusez-moi, d'être comme ça. ou comme ça, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et c'est vraiment formidable.
Et dans tout ce parcours intérieur, dans tout ce cheminement que l'on retrouve dans « S'aimer quand même », Isilde Bescot, on sent pour vous la peur d'une répétition du mal, de cette douleur, de l'hérédité presque de ces liens. Répétition qui a eu lieu ou reproduction à travers la relation que vous avez eue avec un ex-mari colérique, un peu violent, une relation qui était passionnelle aussi dans cette manière, et on retrouve dans cette galerie de portraits aussi cette figure masculine. C'est intéressant parce qu'on sent aussi que la reconstruction aujourd'hui pour vous ne passe pas, ou passe par vous plutôt, ou passe pour vous, et non pas en opposition contre les hommes, même si les figures présentées sont ici et souvent assez fascinantes et toxiques.
Mmh. Oui, bah, c'est assez fou en fait, mais évidemment, on attire en fait ce qu'on est. Donc, je pense que les liens ou les hommes avec qui ont été violents dans ma vie, c'était à l'image de ce que je pouvais accepter, de le home en fait. C'est-à-dire si on a grandi dans un home de violent en fait, on reproduit tout naturellement. Et moi, j'avais même déjà petite, cette interrogation et cette conscience. Et en fait, je luttais déjà, en fait, presque pour ne pas répéter. Mais j'avais pas la conscience, en fait, que c'était dans l'ambiance, en fait. Et que lutter avec ce qu'on avait déjà créé, c'était aussi lutter en nous-mêmes. Je sais pas si c'est assez compréhensible, mais. Voilà, en fait, il faut avoir conscience qu'on reproduit en fait des ambiances, c'est-à-dire des rapports entre les gens, et si on a été en insécurité, en violence, on est mieux dans cette insécurité et cette violence que dans un autre climat. Donc c'est là en fait qu'il faut se transformer, c'est-à-dire tout d'un coup se dire on va construire un autre climat, et c'est très difficile. C'est comme apprendre une autre langue. Il faut en avoir envie, il faut en avoir les capacités de reprogrammation. C'est vraiment difficile.
Et vous l'écrivez, il faut résoudre les nœuds de famille, les liens, les non-dits, les mensonges qui se perpétuent organiquement dans l'ADN. Et il faut finalement se réinventer, repartir à zéro régulièrement. À ce passé douloureux, Isilde Bescot, vous opposez aujourd'hui un présent plus apaisé. Depuis que je suis revenue du noir, j'aime tout ce qui m'entoure, écrivez-vous. Est-ce que vous diriez que l'art, dans une certaine mesure, peut aider à penser et à penser, donc E-N et A-N, ses propres blessures?
Oui, bien sûr, parce que l'art, c'est l'émotion. Et ce qu'il faut, c'est être en phase avec ses émotions. Et dans nos vies, en fait, on étouffe beaucoup, beaucoup de ses émotions. Donc l'art, en fait, permet de faire ressurgir certaines émotions et justement de rentrer en résonance avec soi-même. Et il n'y a qu'en étant vraiment soi-même qu'on peut décider qui on veut être. Donc des films, de la musique, tout naturellement des discussions avec des amis qui nous racontent leur histoire permet de toujours se reconnecter si on a cette envie. Et l'art, bien sûr, est totalement salvateur.
Et alors là, il y a deux casquettes que vous avez depuis quelques années maintenant, même depuis longtemps, celle d'actrice comédienne, puis celle de réalisatrice. On imagine qu'on ne donne pas la même chose dans un cas comme dans l'autre, on ne se raconte pas de la même manière. Au cinéma, on se construit dans le regard des autres aussi, dans celui du metteur en scène et dans le regard du spectateur. Actrice précoce, Isilde Le Bescot, première apparition à l'écran à 8 ans, et actrice fétiche d'Emmanuel Berco, Les Vacances, Backstage, et de Benoît Jacquot, avec lequel vous avez tourné 6 films, je crois, dont Sade et Au fond des bois. Écoutez comment il parle de vous.
Il y a quelque chose de très très énigmatique, aussi bien dans son art d'actrice que dans sa personne. Et sa personne étant... abritant cette espèce de noyau d'énigme, ce noyau, elle le transporte elle l'amène dans les personnages. Elle en fait le noyau des personnages qu'elle interprète. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse énormément. Parce que d'une certaine façon, cette énigme, c'est pas seulement une énigme pour les autres, que ce soit moi, metteur en scène, ou l'éventuel spectateur, c'est une énigme pour elle-même aussi. Elle joue avec cette énigme. Elle cherche quelque chose d'elle en jouant. Quelque chose qu'elle ne sait pas, qu'elle ne saura jamais, mais autour de quoi elle circule en jouant.
L'énigme Isilde de Bescot.
Mais c'est vrai que c'est un peu ça, quand j'écrivais, je cherche aussi qui je suis en écrivant.
Et quand vous jouez ?
Quand je joue aussi.
Et vous arrivez à vous trouver justement dans le regard des autres ?
Non, je pense que je me retrouve plus dans mes livres. Après, dans le regard des autres, j'essaie de convenir au mieux au personnage que l'autre veut avoir.
Donc c'est pas une quête, mais c'est pas non plus une manière de se perdre.
Non. Mais pour être actrice, il faut quand même être solide, parce que justement, on se donne à 1000%, et après, il faut savoir se retrouver. Donc il faut se construire solidement, je pense.
Qu'est-ce qui passe aussi à travers la réalisation pour vous de films ? C'est montrer les autres par le prisme, cette fois, de votre regard à vous. Est-ce que vous avez toujours été prudente dans la manière dont vous représentiez les femmes à l'écran ?
Non, pas du tout. En fait, que ce soit dans mes films ou dans le livre, je ne me suis jamais posé ces questions. Et dans ce livre, en fait, qui raconte des histoires de femmes, je ne me suis jamais posé ces questions. Je ne me suis jamais dit, tiens, je veux raconter les femmes, etc. C'est quelque chose vraiment qui vient au-delà de moi, qui est plus fort que moi.
Et pourtant, vous racontez aussi le poids de nos héritages culturels dans ce livre, la manière dont nous, les filles, nous sommes aussi éduquées, dont nous grandissons, à travers quel mythe, quel conte, quelle mythologie collective. Est-ce que le cinéma a une part de responsabilité dans tout cela ? C'est-à-dire que, est-ce que vous, dans la formation de votre imaginaire, il y a des films qui ont à un moment compté, qui ont été aussi des moments de prise de conscience pour vous ? Et j'en reviens du coup au rôle ou à la responsabilité de ce que peut l'art.
Oui. Encore une fois, l'art, ça m'a beaucoup nourrie, mais de manière émotive, en fait. Je me souviens plus d'émotions de films que d'histoires, en fait. Le contexte ne me reste pas dans la tête. Mais c'est vrai que pour les femmes, il faut avoir ce courage, en fait, de recréer sa propre histoire, c'est-à-dire de se dire, voilà, dans mon ADN, dans mon éducation, j'ai tout ça, mais est-ce que c'est ce que je veux aujourd'hui ? Je veux peut-être être différente et construire différemment de ce que je suis. Et ça demande un immense courage de se décider, vraiment. Et ça passe par le fait de beaucoup parler, en fait, et exprimer ce qu'on a été, ce qu'on a vécu.
Vous pensez qu'on est réellement programmé, d'une certaine manière, à être dépendante des autres ?
Oh non, au contraire, je pense qu'on est programmé pour trouver la liberté en soi-même et être très heureuse et très libre. Mais il faut s'y consacrer, je pense.
La belle occasion, on écoute la bande-annonce.
Notre histoire, elle est dure. Mais lui, ravi, il sait pas tout ça. Il ne sait pas grand-chose.
Arrête de me sentir. Arrête!
Tu t'es lavé ce matin?
Ouais.
Non, je sens pas. Regarde tes dents. Tu t'es lavé les dents?
Ah oui?
Ouvre la bouche.
Ah.
Fais.
Mais oh! Casse-toi, putain! Dégage!
Casse les couilles, lui!
C'est vrai, je te appelé moi.
Regarde devant. Regarde loin.
Dans La Belle Occasion, le personnage que vous incarnez, Isilde Bescot, passe pourtant son temps à aider, à vouloir rendre service aux autres. Donc avant de trouver sa propre liberté, sa propre indépendance, comme vous le dites, on sent qu'il y a quand même aussi sur les femmes cette culture de l'entraide qui pèse d'une certaine manière, cette culture de se mettre au service des autres.
Bien sûr. Oui, moi ça a été une grande partie de ma vie où je me disais je dois donner aux autres, je peux les aider à changer, je peux, voilà, et en fait non, je pense que j'ai compris, je crois aujourd'hui la vraie générosité c'est aussi évidemment pouvoir aider les autres, mais aussi accepter qui sont les autres, ceux qui vivent, et ne pas forcément vouloir les changer et faire mieux pour eux et leur donner plus et se sacrifier, en fait c'est pas généreux finalement de se sacrifier pour les autres.
Mon premier élan est féminin, écrivez-vous aussi dans S'aimer quand même. Quelle forme peut prendre cette solidarité ?
Elle prend toute forme. Elle va dans la compréhension, surtout. C'est pas une empathie. c'est pas un élan que je décide dans ma tête, mais c'est surtout, en fait, je pense qu'au final, on est toutes, en fait, les mêmes. On parcourt toutes les mêmes choses si on accepte qui on est. On est les mêmes personnes, quelque part. On a tous envie d'être qui on est et d'être bonne, d'être généreux, de créer un monde meilleur.
Parler, écrire, c'est bien, c'est un bon début. Vous avez accepté d'être l'un des visages de cette campagne. Maintenant, on agit à l'initiative de la Fondation des Femmes. C'est un collectif de soutien aux associations d'aide aux victimes de violences sexuelles. Pourquoi ?
D'abord parce que je trouve que c'est le minimum qu'on peut faire. Et je pense qu'en fait, on n'en est qu'à un début du débat. Les violences, elles sont beaucoup plus larges que les violences sexuelles. Il y a toute forme de violence. Les violences sexuelles sont une toute petite partie de l'iceberg. Et ça, c'est en train de changer, ça va changer.
C'est la belle occasion, mais c'est aussi la belle occasion peut-être d'agir, ce moment de libération de la parole des femmes, et notamment de se demander pourquoi il est si difficile de se reconstruire après avoir subi des violences, alors qu'elles soient sexuelles ou non. Quels sont nos freins intimes ou sociaux, collectifs à cette reconstruction ?
Oui, on n'imagine pas la difficulté que c'est de livrer et de dire en fait ce qui nous est arrivé, je pense. Je pense que c'est aussi un peu le home dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on se sent aussi responsable, on a honte, enfin c'est une femme qui s'est fait battre, qui s'est fait maltraiter, on touche à son intimité, parce que pourquoi elle-même a accepté tout ça et livrer des insultes qu'une femme a reçues ou montrer des coups qu'elle a reçus, c'est très douloureux, en fait, parce que souvent, il y a beaucoup de déni. Donc, ça permet de vivre le déni. Donc, à partir du moment où une femme, elle va se livrer, elle va se livrer à elle-même. À partir du moment où elle va dire « il m'a dit ça, ça, ça », c'est violent, c'est comme se redire les coups d'une autre voix dont on n'a pas été habitué. Voilà, on peut s'habituer tuer à une sorte de maltraitance, et puis alors après, si on la révèle, c'est vraiment un tremblement de terre.
Et parmi les personnages que vous mettez en scène par les mots dans ce livre, on trouve des portraits de femmes. Alors, est-ce que vous acceptez l'idée ou le terme de victime ou pas, en tout cas des femmes qui ont subi des choses extrêmement dures, une femme hospitalisée pour avoir été frappée par son conjoint dans Liseuse de cœur, une star hollywoodienne qui fuit en Inde après avoir été jetée par son amant dans Mon nom est Marilyn Monroe, une journaliste chinoise qui peu à peu est dévorée par l'émission dans laquelle elle interviewe des criminels, ça c'est dans Mortel Show chinois, une jeune femme de 16 ans qui est défigurée après une attaque à l'acide dans Sagesse indienne, qui porte bien son nom. Une jeune américaine, son mariage et la mort d'un fils, avec le fusil pour enfant qu'elle lui a offert dans Wedding. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces femmes ? Qu'est-ce qui les relie, les îles de Pesco ?
Elles ont toutes, en effet, vécu des choses très difficiles. Mais toutes, elles ont aussi l'envie de se reconstruire avec ces éléments. Même cette jeune indienne qui est défigurée à l'acide, elle se pose, elle se dit, j'ai vécu ça, qu'est-ce que je vais devenir aujourd'hui ? Donc toutes, elles sont dans une envie salvatrice différente, en fait. Elles ont été victimes, bien sûr, mais elles dépassent ce statut, en fait. Et c'est toujours une chose importante pour une femme victime, à un moment donné, de dire, oui, j'ai été victime, mais maintenant... Je vais justement plus être victime. Mais il faut cette étape.
Et qu'est-ce qu'on est quand on n'est plus victime ?
On est justement la vie.
On est maître de son destin aussi. C'est-à-dire qu'on ne se construit plus dans le regard des autres, mais qu'on se construit par soi-même, dans son propre regard. C'est aussi ça, s'aimer quand même. C'est ne plus se fier au regard des autres en permanence, chercher la reconnaissance des autres.
Oui, ça c'est une quête qui n'a pas de sens. Il faut se trouver soi-même pour soi-même. puisque on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans le regard des autres. Donc c'est une énergie tout à fait, enfin, qui nous nuit quelque part. Alors que beaucoup dans les femmes se construisent là-dessus, tu dois être belle, tu dois séduire, etc. Et du coup, elles perdent en fait la connexion en elles-mêmes. Pour plaire, ou alors pour essayer de convenir aux hommes. Ça, c'est quand même la base de beaucoup de femmes, je pense, hein, qui se perdent parce qu'elles veulent être la meilleure femme, en fait.
J'ai retrouvé ces mots de votre sœur Maïwenn, elle aussi réalisatrice, qui dit « Je suis anti-mouvement féministe. Je trouve absurde ce débat récurrent autour du manque de réalisatrices, notamment en sélection au Festival de Cannes. Je n'aimerais pas qu'un jour un individu soit sélectionné pour son sexe et non plus pour la qualité de ses films. » Alors on peut lui répondre que l'un n'empêche pas l'autre, mais est-ce que vous, Isilde de Besco, vous êtes pour des actions positives pour aider les femmes aujourd'hui à trouver leur place dans la société, que ce soit en politique avec la parité, que ce soit au cinéma? Est-ce qu'il
Bien
faut des
sûr.
Quotas?
On ne peut pas agir seul. Ça, on doit agir à plusieurs et on doit être solidaires les uns des autres. Et le meilleur va toujours avec une envie commune, donc d'évidence, bien sûr.
Et ça doit ou ça peut en passer par la loi?
Oui, absolument. Ce sont des étapes, mais il y en a beaucoup.
Vous serez présente, Isilde de Besco, les 3, 4 et 5 avril à la Ménagerie de Verre à Paris dans le cadre du festival Étrange Cargo pour y présenter 70 heures pour s'aimer. C'est une création dite sensorielle qui sera jouée notamment par Elodie Boucher et Lolita Chama.
Et Yenke.
Et Yenke. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? C'est une traduction aussi de ce livre?
Alors c'est plusieurs morceaux de pièces, des interprétations et lues par elle. Et voilà, ça va être très beau et c'est une rencontre entre des femmes très généreuses, très bienveillantes et ça va être... C'est une volonté de donner de l'intime pour faire résonner de l'intime et puis pour que chacun puisse quelque part se ressourcer de cet intime et cette force.
Mais c'est pas que pour les femmes, c'est aussi
non,
pour
bien
tout le
sûr.
Monde, parce que ce monde commun...
Parce que les hommes ont besoin de comprendre les femmes, évidemment.
Oui, il faut le construire ensemble. C'est de cela aussi dont nous allons parler dans la deuxième partie de la Grande Table avec notre invité, le philosophe Raphaël Liogier, auteur de Descente au cœur du mal, au lien qui libère. Merci mille fois à vous, Isilde Besco. S'aimer quand même vient de paraître chez Grasset. Merci beaucoup.